Alors, on a eu quelques changements dans l'horaire et on va revenir à nos accords. Il y a 12 accords pour prier. Si on s'ennuie durant notre temps de prière, ben voici, on est rendu à la 9e. On a vu tous ces accords-là. La dernière fois, on a parlé de la requête. Et la requête, c'est quoi? On parle de requête? En gros. Une demande, hein? Et dans le Notre Père, il y a 7 demandes-là. Ça, c'est une requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On a vu que dans notre société, c'est plus « Merci Seigneur pour le pain », plus qu'on en manque, hein? Et il y a aussi dans le Notre Père une requête. Ça, c'est pour nos, on pourrait dire, nos besoins matériels, nos besoins physiques. Mais on a aussi des besoins émotionnels, des besoins psychologiques, des besoins spirituels. Pardonne-nous nos offenses, c'est aussi un besoin. Parce que notre société a besoin, a des besoins spirituels, des besoins émotionnels, mais on vit dans une société qui a ces besoins-là. On a vu aussi que Jésus a voulu vraiment impressionner ses disciples avec des paraboles, des absolus, je dirais. Il dit, car quiconque demande reçoit, pour demander quoi que ce soit, il y a pas de limite à ce qu'on peut demander, et il n'y a pas de limite à ceux qui peuvent demander. Tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Il a aussi employé la métaphore de la montagne. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, tu dis au Mont-Royal, déplace-toi, va te jeter dans le fleuve, ça va s'accomplir. Je pense que le Seigneur voulait capter comme l'attention de ses disciples. Il voulait leur montrer quoi? Qu'est-ce qu'il voulait leur montrer avec ça? La puissance de la prière, hein? Est-ce qu'on y croit? Et si on y croit, on peut accomplir toutes ces choses-là. Alors, je pense qu'il y a vraiment, Jésus voulait vraiment montrer l'importance et la puissance de la prière avec ses métaphores incroyables. Dieu exauce toujours nos prières. On part avec ça, avec cette affirmation-là, ou je pars avec cette affirmation-là. Dieu exauce toujours nos prières. Quelqu'un a dit, ça prend plus d'efforts, ça prend plus de temps à Dieu de nous convaincre d'avoir confiance en lui, qui est capable de le faire, que ça lui prend d'efforts et du temps pour accomplir la requête. Ça a pris combien de temps à convaincre le peuple de Dieu d'entrer dans ta promise? C'était plus difficile pour lui d'attendre que ses enfants, son peuple, lui fasse confiance et d'entrer dans la terre promise, que d'entrer dans la terre promise. Alors, est-ce que c'est Dieu qui fait défaut? Est-ce que c'est la prière qui fait défaut? Je dois dire que le prieur fait défaut. Hein? C'est pas Dieu, c'est pas la prière qui fait défaut, c'est moi qui fais défaut et qu'il y a bien des choses que j'appelle prière qui n'est tout simplement pas de la prière. J'avoue, après toutes ces années, qu'il y a bien des prières qui... C'était des mots qui sortaient de ma bouche puis qui tombaient sur mes souliers. Ça n'allait pas plus haut que ça. Et une prière n'est pas une prière s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas cette conviction-là que Dieu va le faire. Alors, bien souvent, ce que je fais, ça s'appelle pas prier. Je sais, je suis dur un matin, mais je pense que c'est la réalité. Des prières qu'on fait sans que le cœur soit là, des prières qui superficielles, et je m'attends même pas à ce que Dieu réponde, ne sont pas des prières, tout simplement. Et c'est une raison pour laquelle Dieu ne répond pas. Ce qu'on va voir, c'est ça. On a déjà vu la dernière fois qu'il y avait un obstacle à la prière. Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en Dieu? Pourquoi est-ce que je vais pas prier à Dieu? Et je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, c'était quoi? Quelle raison? C'est loin, hein? Jésus, il a comparé Dieu à un voisin qui ne veut pas être dérangé. C'est en plein milieu de la nuit. Et puis, dans la parabole, il dit que si je suis assez fatiguant, là, si j'insiste assez, le voisin grincheux qui va avoir la paix, il va finir par te donner ce que tu as. Ça ressemble-tu à Dieu, ça? Notre image de Dieu est tout croche. Alors, il y a des bonnes raisons, il y a des bonnes chances que la raison pour laquelle je ne prie pas avec foi, c'est que mon image, ma perception de Dieu, mon impression de Dieu est tout croche. Et il a parlé aussi d'un fils qui demande à son père du pain, puis son père lui donne quoi? Une pierre, il demande du poisson, son père lui donne un serpent. Puis il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si Dieu ressemble à ça, à ce genre de père-là, vous n'avez pas le bon père. Changez de Dieu. Hein? Pourquoi est-ce que Jésus a apporté ces images-là? C'est vraiment pour qu'on ait la bonne perception de Dieu. Dieu n'est pas comme ce voisin grincheux qu'on n'ira pas le voir parce qu'il va nous déranger, ou on n'ira pas le voir parce que si je demande un poisson, il va me donner une épreuve. Hein? Encore pire. Non. Dieu, il est là, il n'attend que ça qu'on aille frapper à sa porte. Dieu est là, il n'attend que ça d'être dérangé par ses enfants. Le problème des disciples, c'était simple. Ce que Jésus veut dire par là, c'est votre image de Dieu a besoin d'être corrigée. Elle est tout croche. Hein? C'est difficile de faire confiance, de s'approcher à un Dieu, à un Père qui n'est pas intéressé, un Père qui est dur, qui n'entend pas, qui est absent, qui n'est pas là, qui est indifférent. Très difficile. Si c'est le Dieu que tu as, là, très difficile de s'approcher d'un Dieu de ça, un Dieu comme ça. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils avaient perdu, l'image de Dieu, la bonne image de Dieu. S'ils avaient eu la bonne image, s'ils avaient connu le vrai Dieu, ils se seraient jetés dans ses bras. Alors, peut-être que je ne m'adresse pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a une personne ici qui a besoin d'entendre ça, mais ça vaut la peine. Si tu n'as pas le goût de prier, si tu n'as pas le goût d'être dans la présence de Dieu tous les jours, si tu n'as pas besoin de lui parler, tu n'as rien à lui demander, puis ça fait une semaine, deux semaines. Je pense que ta perception de Dieu, elle est fausse. Tu n'as pas le bon Dieu. Change de Dieu. C'est possible que tu sois fâché contre Dieu. Tu as quelque chose sur le cœur. Peut-être que tu as perdu espoir, tu es découragé. Parce que Dieu, il semble qu'il ne fait rien, ça ne donne rien que j'aille le voir, ça ne donne rien que je prie. Ou peut-être tu as peur de Dieu, peut-être tu es dans la culpabilité, tu es dans la honte, tu as fait quelque chose de pas correct. Puis tu n'as pas le goût de rentrer à la maison dans ce temps-là, puis de te faire condamner, n'est-ce pas? Peut-être tu n'as pas la conscience en paix vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on s'éloigne. On se débrouille bien, sans Dieu. On va faire notre vie ailleurs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Qu'est-ce qui empêche Dieu de répondre à ses enfants, à nos prières? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent Dieu de répondre à mes prières, même si c'est ça qu'il désire? Et la réponse, c'est oui. Et on va en voir au moins 4 ou 5. La première, c'est que je demande mal. Ma prière n'est pas vraiment une prière qui est acceptable. Si un fils demande un scorpion, si un fils demande quelque chose qui va être mauvais pour l'enfant, est-ce que le père est obligé de donner ça? On dit non tout de suite. Mais c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? L'enfant prodigue a demandé quelque chose qui allait ruiner sa vie. Et qu'est-ce que son père a fait? Il lui a donné. Ça, c'est quelque chose. Il lui a donné son héritage. Il est parti faire sa vie. Il est parti se perdre. Je m'imagine le père, quand il a vu son enfant s'en aller, perdre sa vie. Je peux comprendre un petit peu. Si vous avez passé par là, si vous êtes passé par là, vous pouvez comprendre un petit peu. Je ne crois pas qu'il y ait rien dans la vie qui fasse plus mal que ça. De laisser ton enfant, ton fils, aller faire sa vie. Gâcher sa vie. Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que le Père, c'est un portrait de Dieu. Et le Père, il n'a pas couru après pour dire, « Non, 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 fais pas ça. » Il a laissé aller. Il a continué à l'aimer, malgré ses mauvais choix. Et l'enfant prodigue, il savait que la porte était toujours ouverte, qu'il pouvait revenir à la maison. Peu importe ce qu'il avait fait. J'ai vu comme un pattern dans la Bible. Il y a comme un cercle vicieux dans la Bible. On peut faire le tour tranquillement, pas vite. Alors, ça part bien. Le peuple aime Dieu, le peuple obéit à Dieu et le peuple est béni. Ensuite de ça, bien entendu, lorsque on vit selon ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qu'on récolte? La victoire, la sécurité sur les ennemis, c'est l'abondance, c'est la liberté, le peuple est vraiment béni. Avec le temps, on se met à oublier Dieu. Tout à coup, il y a d'autres passions, d'autres choses plus intéressantes que Dieu, d'autres occupations plus... Il y a d'autres dieux qui, tranquillement, pas vite, viennent s'infiltrer. Et Dieu n'est plus le premier dans notre vie. Après ça, ça crée un vide, parce que ça, c'est la place de Dieu. Il y a une soif insatisfaisable à l'intérieur. Et on consomme, on abuse de tout ce qu'on peut. Et on est dans une société de consommation. Alors, vous imaginez le choix qu'on a pour remplir ce vide à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on récolte? On est malheureux, On est esclave, on est dépendant de toutes ces substances, de toutes ces occupations-là. Qu'est-ce qu'un malheureux fait? Le malheureux crie. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, puis il le délivre. Et puis, on retrouve notre relation avec Dieu qui est, il y a comme un nouveau souffle. Alors, ça, c'est, je pense, un pattern qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, surtout. On peut voir ça, le peuple qui, tranquillement, profite, s'habitue à l'abondance, on a une belle vie, et puis on a de moins en moins besoin de Dieu, ce n'est pas un besoin ressenti. Et puis, il y a plein d'autres choses qui prennent la place, mais ce qu'on récolte, c'est le vide. Et puis, on devient malheureux, on devient esclave, on devient... Et là, on revient au Seigneur. Alors, où est-ce que tu es, mon frère, ma sœur, dans le cycle? Alors, si tu es rendu à le malheureux cri, tu es à la bonne place ce matin. Reviens au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on va passer vite parce que Jacques, il est terrible. C'est la même chose qu'on vient de voir. Jacques ne s'adresse pas à des inconvertis, là. Il s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des chrétiens. Puis il dit, d'où ça vient, les chicanes, les querelles? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, envieux, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas parce que vous désirez, n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez mal avec des motifs, avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Adultère. Ce qu'on a vu tantôt, là, ça s'appelle de l'adultère. On met Dieu de côté et puis on se lance dans les bras de tous les autres dieux à notre portée. Il ne mâche pas ses mots. Lisez pas l'épître de Jacques si on a des cœurs sensibles parce qu'il est assez tranchant. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, pas les personnes, là, mais le système qui vit sans Dieu et qui, bien souvent, est contre Dieu, c'est un ou l'autre. Sinon, quelqu'un veut être l'ami du monde et se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture, Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu veut que nos cœurs soient entièrement à lui. Et dehors toutes les idoles, dehors toutes ces choses-là qui prennent la place de Dieu dans ma vie. Et c'est pas pour tout le monde la prochaine. Si tu t'es reconnu là-dedans, là, si tu dis oui, ça c'est mon cœur, oui Jacques, tu as raison, oui, il donne, à la suite de ce verset-là, il va donner 10 impératifs. Quoi faire? On pourrait dire que l'enfant prodigue, c'est ce que fait. Pour sortir de son trou, là, de sa misère. 10 impératifs de ce que c'est une prière dans cette situation-là. Soumettez-vous donc à Dieu. Obéissez à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Tu es dans un combat spirituel. Tu lèves la main pour au nom de Jésus-Christ, je dis non à cette cochonnerie-là. Approchez-vous de Dieu. C'est une invitation comme le père de l'enfant prodigue, il l'a reçu comment? Les bras grands ouverts. Approche-toi de Dieu. Nettoie tes mains. Hein? Âme partagée, en grec, c'est deux âmes. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez. Changez votre rire en deuil. Une repentance sincère. Yark! Ça m'écœure. Et humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors ça, c'est la prescription de Jacques pour un cœur qui est adultère, un cœur qui n'est pas entièrement au Seigneur. Et il n'y a pas d'autre remède. C'est radical. Tu coupes. avec ces cochonneries-là. Ensuite, encore dans Jacques, ça achève. On va tomber dans Jean, ce sera pas long. L'apôtre de l'amour. Mais il y a une petite chose que je voulais souligner. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Ça, c'est la prière que Dieu exauce toujours. Sans douter. Celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève, pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis, encore là, l'âme double, et incertain, inconstant, instable dans tout ce qu'il entreprend. Dieu répond à la prière de celui qui est fidèle au Seigneur. Il dit celui qui ne l'est pas, qui s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, il y a un empêchement à l'exaucement de la prière, n'est-ce pas? On a un exemple dans la parole qui a toujours été exaucé, et c'est Jésus. Hein? Jésus a toujours été exaucé. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Jésus savait que son Père exauce toujours sa prière. Parce que, une des raisons, c'est parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans un autre texte, il dit que Dieu l'a écouté, que Dieu l'a exaucé parce qu'il est resté fidèle. À cause de sa piété, à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu. Alors, il y a quelque chose de relié entre la prière que je fais et ce que je reçois comme réponse, l'exaucement que je reçois. Et ce lien-là entre les deux, ça s'appelle fidélité. La foi dans le sens de la fidélité. Fidélité à faire la volonté de Dieu. Je peux demander quoi que ce soit. Et ça, c'est une promesse. Non seulement que Jésus a toujours reçu ce que le Père allait lui donner, mais Jésus nous a fait la même promesse. Alors, on ne peut pas dire Jésus était parfait, alors lui, il était toujours exaucé, et puis nous, on n'est pas parfait, alors, on ne peut pas l'être, jamais. Non. On peut, et on doit exercer cette prière de foi. C'est pas quelque chose qui... pour les grands saints de ce monde. C'est pour le plus petit d'entre nous a cette promesse-là qui lui est adressée par Jésus. Hein? Celui qui croit en moi, c'est qui ça? C'est quelqu'un qui croit en Jésus ici? Celui qui croit en moi, tout ce que vous me demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, il y a comme un petit bémol, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vais le laisser un petit peu pour qu'on puisse l'imprégner, moi le premier. Est-ce que c'est vrai, ça, ce que Jésus dit? Que tout ce que nous allons demander, est-ce que je crois ça? C'est sa promesse? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons celui qui lui est agréable. Et c'est quoi son commandement? Que nous croyons. Est-ce qu'on le fait? Et nous nous aimions les uns les autres? Est-ce qu'on le fait? Alors? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Je pense que c'est assez clair. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors, je résume un petit peu. Alors, si je demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. On connaît ce verset-là par cœur, mais je ne suis pas sûr que ça pénètre dans le fond de mon cœur suffisamment. C'est comme... quand on dit « en son nom », selon la volonté, c'est comme si le Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti, nous a donné un chèque signé, un chèque en blanc, puis dit tout ce que vous allez écrire sur le chèque, vous allez décider ce que vous allez écrire sur le chèque, puis moi je vais répondre à cette chose-là. Si on est dans le mode écouter la chair, la satisfaction de la chair, faire ma volonté, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, puis il n'y a pas personne qui va me diriger ma vie, oublie ça, tu vas juste récolter ce que tu vas semer. Mais si tu es dans le mode écouter Dieu, chercher ce qui est agréable à Dieu, sincèrement, vraiment, là, à genoux devant Dieu, puis dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Montre-moi ta volonté. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse aujourd'hui? Sa volonté va devenir ma volonté, et ma volonté va devenir sa volonté, et je peux demander ce que je voudrais, et Dieu va me l'accorder. Ça, c'est pas Michel Hull qui le dit. C'est la promesse de Jésus-Christ. J'ai un chèque en blanc. Tu as un chèque en blanc. Tu peux écrire dessus ce que tu veux. C'est ça, prier au nom de Jésus-Christ. Des fois, on dit ça comme une formule. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mais il y a beaucoup plus dans ce « au nom de Jésus-Christ ». Il y a la signature. Je prie comme si c'était Jésus lui-même qui priait. Alors, parfois, quand on dit, Seigneur, je te demande telle chose, si c'est ta volonté, c'est comme si une prière fataliste. Si c'est ta volonté, ça veut dire, je vais l'essayer au cas où ça marche, puis j'ai rien à perdre. Ça, ce n'est pas prier selon la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, un peu comme les musulmans ou Allah, notre Dieu n'est pas Allah. Notre Dieu est un Dieu qui écoute à la prière, qui n'a pas tout décidé, et à qui on peut parler, exprimer nos besoins, et ça fait plier le bras de Dieu. On a prié une fois, deux fois, ça n'a pas l'air à bouger. OK, je pense que Dieu ne veut pas. On élimine assez vite. Ça, c'est pas prier selon la volonté de Dieu, d'après moi. C'est pas prier, c'est pas la prière de la foi. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, c'est là qu'est toute la puissance. Est-ce que je crois à ce que je prie? Mais crois que ce qu'il dit, qu'il a dit, arrive, ce sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La prochaine fois, je vais aller prier dans ce temps de requête-là. Je dois m'assurer que j'y crois, que mon cœur est là et que j'ai cette confiance, cette conviction, cette assurance dans le fond de mon cœur que Dieu a entendu ma prière et je vais continuer jusqu'à ce que je sois exaucé, ou à moins d'une preuve contraire. Ça, c'est la prière de la foi. J'ai demandé à Dieu quelque chose qui lui est agréable, quelque chose qui est selon sa volonté. J'en ai la conviction dans le fond de mon cœur. Et je vais continuer à lui demander. Ça m'est arrivé dernièrement. Pendant un an, j'ai prié pour quelque chose. Puis quand j'ai lâché, là, c'est comme si le Seigneur a eu pitié de moi, puis il a donné ce que me... il a répondu à ma prière. Un an, sans réponse. Des fois, c'est long. Des fois, c'est tough. Mais dans le fond de mon cœur, j'avais demandé cette chose-là à Dieu. Elle était selon Dieu. Et j'ai manqué un petit peu de persévérance, puis Dieu, dans sa grâce, a comblé le reste. Le jour où j'ai dit, c'est fini, ce jour-là, je reçois un téléphone, et la personne m'annonce que ma prière était répondue. Ferme assurance. Hein? Quand je prie avec foi, c'est comme s'il y a une petite flamme qui est allumée dans mon cœur. Que cette chose-là que je désire, que je veux, que j'ai examinée selon, qui est agréable à Dieu, hein? Cette petite chose-là, là, cette petite flamme-là, elle ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint pas. Parce que ça vient de Dieu. Ça grandit, malgré tous les signes contraires, malgré... Non, je continue à prier pour ça. Il y a quelque chose dans le fond de mon cœur, c'est le Saint-Esprit qui m'aide dans ma faiblesse et qui me dit que je dois continuer jusqu'à ce que je sois exaucé de cette prière-là. Mais pour ça, il faut écouter Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu. L'enfant prodigue, il était une période de temps où il n'écoutait pas Dieu. Il écoutait quoi? Sa chair, le monde. Est-ce qu'il est exaucé? 100%. 100%. Il a eu ce qu'il voulait. Et on récolte ce qu'on prie. On récolte ce qu'on demande. Et à un moment donné, l'enfant prodigue s'est mis à écouter Dieu. C'est écrit qu'il est entré en lui-même. Il est entré dans son cœur. Oups! C'est drôle. Tout ce temps-là, il était en commandeur de son cœur. Il est entré dans son cœur. Et là, il a écouté la voix de Dieu qui lui disait, « J'étais bien chez mon Père. J'étais bien avec le Seigneur. Quand j'étais passionné, hein, pour les affaires de mon père. » Ça, c'était la vraie vie. Lorsqu'on se met à écouter Dieu, on va l'entendre. On va l'entendre, c'est sûr, sûr, sûr. Dieu ne demande que ça. Viens à moi. Viens à moi. Aie pas peur. T'as tout gâché. Tout ton héritage, tu as tout perdu dans la vie. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Tu te sens coupable? Il n'y a rien là. Il n'y a rien que mon amour ne peut pas combler, remplacer. Reviens. Reviens au Seigneur. Maintenant, tu ne le regretteras pas. Tu as assez goûté de toute façon autour, là. Tu as assez goûté pour te dire, ça m'écœure. Voilà ce que j'ai récolté en ne suivant pas le Seigneur. Il y a, en résumé, qu'est-ce qui fait obstacle à la prière de la foi? Peut-être en choisir un, là, j'en ai mis quelques-uns, mais pas en choisir un. Vous dites, oups, ça, c'est quelque chose que je dois travailler avec le Seigneur. Alors, le premier, c'était mauvaise perception de Dieu. Puis un signe que j'ai une mauvaise perception de Dieu, c'est que soit que je ne prie pas, que j'ai pas envie de prier, puis quand je le fais, c'est juste pour la forme. Il n'y a pas de contact intime, personnel avec le Seigneur. Moi, je dirais, va voir. Quelque part, tu as quelque chose sur le cœur, là, si tu ne vois pas Dieu comme il faut. Le deuxième, demander mal, hein, pour ma satisfaction égoïste. Que vous avez un exemple? Seigneur, je vais acheter 10 billets de mini-loto et c'est toi qui es le maître de tout. Et puis, je vais avoir le numéro gagnant. Tu vois, je vais la donner, ma dîme. Hein? Ça va faire beaucoup de bien. C'est un exemple de même, là, mais... Hein? Sans chercher, sans désirer la volonté de Dieu, si je me mettais à dire, « OK, Seigneur, je mets tous ces besoins-là, là, j'ai les identifiés comme... ils peuvent être légitimes, hein? Ça peut être des besoins qui sont légitimes. Mais c'est l'exagération. C'est la place que ça prend dans ma vie qui est le problème. Alors, mais si je me dis, « Seigneur, c'est quoi ta volonté? » Puis je veux vraiment la connaître, ta volonté. Vous allez voir qu'il y a une petite flamme qui va s'allumer dans votre cœur. Il y a un petit indice. Vous allez, hein? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, mets-toi à l'écoute du Seigneur et je ne suis pas inquiet. Une quatrième chose qui fait obstacle à la foi, c'est le doute. La fatalité, bon, ça arrivera si ça arrive de même, c'est parce que Dieu l'a voulu et c'est ça me donne une raison de ne pas croire, de ne pas persévérer, plutôt que d'avoir la conviction et de persévérer. On arrête trop vite. Ça, c'est pas la prière de la foi. La prière de la foi, elle est efficace, puis je dirais elle est toujours efficace. C'est une question de temps. Avant que Dieu réponde. Lise, c'est ici, elle dirait, Dieu il répond oui, il répond non, puis attends. C'est ce qu'elle enseigne aux enfants. Dieu y répond, toujours. Ça se peut que Dieu réponde non, si la prière n'est vraiment pas selon sa volonté. Et j'en ajoute un cinquième en terminant. Le manque d'unité, le désaccord. Ça vaut dans le couple, ça vaut dans la famille, ça vaut dans l'Église, ça vaut dans la société en général, dans tous nos rapports. Hein? On voit ça dans Matthieu, la puissance de la prière est directement reliée à l'accord entre deux et trois frères ensemble. Lorsque j'ai une conviction puis que je la partage avec un autre puis ils se mettent à prier ensemble, oups, les fils se touchent, hein? Alors, mettons-nous ensemble et puis prions ensemble. Ensuite de ça, il dit si tu viens à l'église faire ta célébration puis tu viens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande, ta célébration, va te réconcilier avec ton frère. Il vient présenter ton offrande. Et la dernière, pour terminer, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont faibles. Mais, c'est des vieilles traductions. La traduction, version Michel Hull. Comme des vases ou de nature fragile, délicate. C'est beau, hein? Honorez-les comme co-héritière de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La relation dans le couple. Viens pas demander quelque chose à Dieu si ça va mal, non, dans le couple. OK, tu diras ça à Lise. C'est bon. C'est très, très bon. Oui, Seigneur a quelque chose de mieux. Alors, je sais, c'était... On a gratté le fond du cœur, là, puis peut-être que ça a remué des choses, mais... C'est vraiment... L'idée, c'est, j'ai un chèque entre les mains que le Seigneur nous a donné, et puis j'écris dessus ce que le Seigneur veut, quelque chose qui est selon sa volonté, et je peux aller l'encaisser. On reste avec ça? Alors, ayons la foi. Quand on prie, là, mettons cette semaine, là, prions avec foi, et moi le premier. J'ai besoin de que mes prières soient des vraies prières, des prières de foi. Et qui sait ce que Dieu va faire, hein? Si chacun d'entre nous ici, là, on a cette prière-là, puis on se met ensemble, waouh! Bon, on l'a déjà vu à maintes reprises, on le voit. La raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'on a prié avec foi. La raison pour laquelle tu es encore ici, c'est parce que tu pries avec foi. On a plein de bonnes choses. Et on n'a pas vu encore... tout ce que Dieu veut accomplir à travers chacun d'entre nous. Amen.